Chapitre 9. Monsieur Nathalie était le maître de quereller avec elle, mais Emma était en paix avec elle-même. Il était si fâché qu'il tarda plus longtemps que de coutume à reparaître à Hartfield, et lorsqu'ils se virent, la sévérité de ses regards lui prouva qu'elle n'était pas encore pardonnée. Elle en fut fâchée, mais ne se repentait pas. Au contraire, ses plans, ses actions lui parurent justifiés et lui devinrent plus chers par ce qui se passa les jours suivants. Le portrait, élégamment encadré, arriva sain et sauf peu après le retour de M. Elton et, ayant été posé sur la cheminée du salon, il se leva pour le regarder et soupira des demi-sentences d'admiration selon sa coutume. Quant à Henriette, sa sensibilité se changeait visiblement en un attachement aussi fort que sa jeunesse et la nature de son esprit pouvaient le permettre. Emma fut bientôt parfaitement convaincue qu'on ne se souvenait plus de M. Martin que comme d'un objet de comparaison entre lui et M. Elton, comparaison qui était très avantageuse au dernier. Son intention d'orner l'esprit de sa jeune amie par d'utiles leçons ne s'était encore montrée que par la lecture de quelques chapitres qu'on se proposait de continuer le lendemain. Il était plus aisé de causer que d'étudier, plus agréable de se repaître l'imagination et travailler à la fortune d'Henriette que de former son jugement et d'exercer ses facultés intellectuelles. Et la seule poursuite littéraire qui occupait alors Henriette, la seule provision mentale qu'elle préparait pour l'automne de la vie, n'avait pour objet que de faire une collection de toutes les énigmes qu'elle pouvait se procurer, et de les transcrire sur un petit in-quarto, fait par son ami, orné de chiffres et de trophées. Dans cet âge littéraire, il n'est pas rare de trouver de pareilles collections en grand. Mademoiselle Nash, première gouvernante de la pension de Madame Godard, en avait transcrit plus de 300. Et Henriette, qui en avait reçu d'elle la première idée, espéra qu'avec l'assistance de Mademoiselle Woodhouse, elle en aurait bien davantage. Emma l'assista de sa mémoire, de son bon goût et de ses inventions. Comme Henriette avait une très jolie écriture, il y avait lieu d'espérer que ce recueil se distinguerait par sa forme et sa quantité. M. Woodhouse s'intéressait autant à cette entreprise que les jeunes demoiselles elles-mêmes et cherchait dans sa mémoire quelque chose digne d'y être inséré. Il s'étonnait d'avoir oublié tant de belles énigmes qui couraient dans sa jeunesse. Il espérait néanmoins qu'il les retrouverait un jour. Elles finissaient toutes par « Catherine était une belle fille, mais elle était de glace. » Il avait consulté son ami Perry à ce sujet, et quoiqu'il ne se souvînt d'aucune énigme, il se flattait néanmoins que, comme il allait dans tant de maisons, il ne pouvait pas manquer d'en procurer quelques-unes. Ce n'était cependant pas l'intention d'Emma qu'on mit à contribution les beaux esprits d'Highbury. Ce fut au seul M. Elton qu'elle s'adressa. Il fut invité à ajouter au recueil toutes les énigmes et les charades qui mériteraient d'y être insérées, et elle eut le plaisir de savoir qu'il s'en occupait avec elle et qu'il avait le plus grand soin de n'offrir rien qui ne fût galant, rien qui ne fût en faveur du beau sexe. Elle lui devait deux ou trois de leurs plus belles charades. Et sa joie fut à son comble lorsqu'il eut le bonheur de se ressouvenir de la suivante, qu'il récita d'une manière très sentimentale. Mon premier, un chagrin dénote que mon second fera souffrir, mais mon tout est l'antidote qui de mes maux saura guérir. Emma, fâchée d'avouer que cette charade était déjà transcrite, dit « Pourquoi n'en composez-vous pas une pour nous, Monsieur Elton ? Nous serions sûrs qu'elle serait nouvelle et rien ne vous serait plus facile. » Oh non! Il n'avait presque jamais rien écrit de tel de sa vie. Il était si borné, il craignait que Mademoiselle Woodhouse, elle-même, il s'arrêta, ou Mademoiselle Smith ne pourrait pas l'inspirer. Le lendemain, néanmoins, produisit une inspiration. Il n'était entré qu'un moment pour laisser sur la table une feuille de papier contenant, dit-il, une charade adressée par un de ses amis à une jeune demoiselle dont il était épris. Mais Emma, d'après ce discours, fut convaincue que c'était son propre ouvrage. « Je ne l'offre pas pour faire partie du recueil de Mademoiselle Smith. Comme elle appartient à un de mes amis, je n'ai pas le droit de l'exposer aux yeux du public. Mais peut-être seriez-vous bien aise d'y jeter un coup d'œil. » Emma comprit fort bien que ce discours s'adressait plutôt à elle qu'à Henriette. Il paraissait très satisfait de lui-même et il lui fut plus aisé de rencontrer les yeux d'Emma que ceux de son amie. Peu après, il disparut. Après un moment de silence, « Prenez-le !» dit Emma en souriant et poussant le papier vers Henriette. « C'est pour vous, prenez ce qui vous appartient !» Mais Henriette, tremblante, ne voulut pas y toucher, et Emma, ne refusant jamais d'être la première à agir, fut obligée de l'examiner elle-même. « À mademoiselle, charade, mon premier vous instruit de la pompe des rois, du luxe et du bonheur des souverains du monde. Mon second vous présente encore un autre choix, il offre à vos regards le monarque de l'onde. Mais unis, quel revers! Tombés dans l'esclavage, leur pouvoir si vanté, tout a, pour eux, fini, jusqu'à leur liberté. Et la femme, en partage, reçoit leur brillant sceptre à leur couronne unie. Ton esprit pénétrant me saura deviner, et puisse un doux regard de tes yeux m'approuver. » Elle jeta un coup d'œil dessus, réfléchit, comprit le sens de la charade, la relut tout entière pour s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée, et la faisant passer à Henriette, elle s'assit en souriant, se disant à elle-même, tandis qu'Henriette, confuse et peu instruite, faisait de vains efforts pour en découvrir le sens. « Fort bien, monsieur Elton, très bien en vérité. J'ai lu de plus mauvaises charades. Cours et vaisseau. En anglais, courtship signifie aussi faire la cour. Une bonne idée. Je vous en fais mon compliment. C'est sonder le terrain. Cela veut dire ouvertement, je vous prie, mademoiselle Smith, de me permettre de vous présenter mes hommages. Approuvez ma charade et mes intentions du même coup d'œil. Et puisse un doux regard de tes yeux m'approuver. Henriette, exactement. Doux est bien le mot pour ses yeux, c'est de toutes les épithètes la plus juste qu'on puisse trouver. Ton esprit pénétrant me saura deviner. Oh oh, l'esprit pénétrant d'Henriette! Tant mieux, il faut qu'un homme soit bien amoureux, en vérité, pour faire une pareille description. Ah, monsieur Knightley, que n'êtes-vous ici? Je pense que vous seriez convaincu. Vous seriez obligé d'avouer que vous vous êtes trompé une fois dans votre vie. Cette charade est en vérité très bonne et faite à propos. L'affaire doit bientôt se décider. » Elle fut obligée d'interrompre ses agréables observations qu'elle pouvait étendre à volonté par les vives et surprenantes questions d'Henriette. « Qu'est-ce que cela peut être, mademoiselle Woodhouse? Qu'est-ce que cela peut être? Je n'y comprends rien. » Je ne puis pas le deviner. Que cela signifie-t-il? Ayez la bonté d'essayer à le trouver, je vous en prie, mademoiselle Woodhouse. Aidez-moi, je n'ai jamais rien trouvé de si difficile. Est-ce un royaume? Je m'étonne qu'elle ait l'amie et qu'elle peut être la jeune demoiselle. Croyez-vous que la charade soit bonne? Est-ce femme? Et la femme, en partage, reçoit leur brillant sceptre à leur couronne unie. « Serait-ce Neptune? Il offre à vos regards le monarque de l'onde. Ou bien un trident, une sirène ou un requin? Oh non, requin n'a que deux syllabes. Il faut que cela soit bien beau, autrement il ne l'aurait pas apporté. Oh, mademoiselle Woodhouse, croyez-vous que nous le trouvions jamais? Des sirènes, des requins, sottise, ma chère Henriette, à quoi pensez-vous? À quoi lui servirait de nous apporter une charade composée par un de ses amis sur une sirène, un requin? Donnez-moi ce papier et écoutez. Pour mademoiselle... Lisez, mademoiselle Smith. Mon premier vous instruit de la pompe des rois, du luxe et du bonheur des souverains du monde. C'est la cour. Mon second vous présente encore un autre choix. Il offre à vos regards le monarque de l'onde. C'est un vaisseau aussi clairement que possible. Maintenant, pour la rime. Mes unis, courtship, vous entendez, Quel revers ! Tombés dans l'esclavage, leur pouvoir si vanté, tout a pour eux fini jusqu'à leur liberté. Et la femme, en partage, reçoit leur brillant sceptre à leur couronne unie. Ce compliment est très bien tourné. Vient ensuite l'application. Je pense, ma chère Henriette, qu'il vous sera aisé de la faire. Lisez, cela vous servira de confortatif. Il n'y a pas de doute que cette charade n'ait été faite pour vous. Henriette ne résista pas longtemps. Il lui était agréable d'être persuadée. Elle lut les dernières lignes et fut hors d'elle-même. Elle ne pouvait parler. Mais on ne désirait pas qu'elle le fît. C'était assez qu'elle sentît. Emma parla pour elle. « Il y a dans ce compliment un dessein si particulier, si marqué, dit-elle, que je ne puis douter un moment des intentions de M. Elton. Vous êtes l'objet qu'il a en vue, et bientôt vous en recevrez la preuve la plus complète. Je savais bien que cela arriverait. J'étais certaine de ne m'être pas trompée. Mais, à présent, la chose est claire, l'état de son cœur est décidé, saute aux yeux, et est tel que j'ai désiré qu'il fût dès que je vous ai connue. Oui, Henriette, c'est depuis ce temps-là que je désirais que ce qui vient d'arriver eût lieu. Je n'ai jamais pu décider si un attachement entre vous et M. Elton était plus désirable qu'il n'était naturel. La probabilité d'un pareil événement allait de pair avec son éligibilité. Cela me rend parfaitement heureuse. Je vous en félicite, ma chère Henriette, de tout mon cœur. C'est un attachement tel qu'une femme peut se glorifier de l'avoir inspiré. Une pareille alliance ne peut que tourner à bien. Elle vous procurera tout ce dont vous avez besoin, de la considération, de l'indépendance et une bonne maison. Elle vous fixera dans le centre de vos véritables amis, près de moi et d'Harfield, et resserrera les liens qui nous unissent. Cette alliance, enfin, ma chère Henriette, ne peut jamais nous faire rougir, ni vous, ni moi. Ma chère demoiselle Woodhouse, ma chère demoiselle Woodhouse, fut tout ce qu'Henriette put dire en l'embrassant plusieurs fois avec tendresse. Mais quand elle fut un peu remise, son amie reconnut qu'elle voyait, sentait, anticipait et se souvenait parfaitement de tout, comme elle le devait. La supériorité de M. Elton fut reconnue. « Tout ce que vous dites est toujours vrai !» s'écria Henriette. « C'est pourquoi je suppose, je crois et j'espère que tout cela arrivera. Quant à moi, je ne me le serais jamais imaginé. C'est fort au-dessus de ce que je mérite. » Monsieur Elton, qui pourrait épouser, qui bon lui plairait? Il n'y a pas deux opinions sur lui. Il est si supérieur aux autres. Songez à ses beaux vers à mademoiselle. Mon Dieu, que c'est beau! Croyez-vous qu'ils aient été véritablement faits pour moi? Je ne veux faire aucune question, ni répondre à celle qu'on m'adresserait sur ce sujet. La chose est certaine. Rapportez-vous-en à mon jugement. C'est une espèce de prologue à la pièce, une sentence à un chapitre, et sera bientôt suivi d'un fait, la prose. Personne ne s'y serait attendu. Il y a un mois que je n'en avais pas moi-même la moindre idée. Les choses les plus étranges arrivent quelquefois. Certainement, puisque Mademoiselle Smith et M. Elton ont fait connaissance ensemble. La chose est arrivée et réellement c'est fort étonnant. On trouve extraordinaire que ce qui est évidemment jugé désirable soit comme arrangé d'avance par des gens étrangers à la chose et réussisse. Vous et M. Elton devez être ensemble par votre situation respective. Vous vous appartenez l'un à l'autre par la circonstance des maisons que vous occupez. Votre mariage sera le pendant de celui de Randalls. Il semble qu'il y ait quelque chose dans l'air qu'on respire à Hartfield qui enseigne à l'amour la direction qu'il doit prendre et lui montre le chemin qu'il doit suivre. La carrière d'un amour véritable ne fut jamais unie. Une édition de Shakespeare faite à Hartfield aurait une longue note sur ce passage. Que M. Elton soit véritablement amoureux de moi qui ne le connaissais pas assez à la Saint-Michel pour oser lui parler, et lui, le plus bel homme qui fut jamais, un homme que tout le monde respecte autant que M. Knightley, dont la compagnie est si recherchée que tout le monde dit que s'il prend un repas seul, c'est qu'il le veut bien, et qu'il reçoit plus d'invitations qu'il n'y a de jours dans la semaine, et si grand prédicateur. Mademoiselle Nash a pris par écrit le texte de tous ses sermons depuis qu'il est arrivé à Highbury. Mon Dieu, quand je me souviens du jour où je l'ai vu pour la première fois, je ne m'en serais jamais douté. Les deux demoiselles Abbott et moi, nous courûmes dans une salle sur le devant pour le regarder au travers de la jalousie comme il passait. Et Mademoiselle Nash nous gronda, nous fit retirer et se mit à notre place pour le voir. Cependant, elle me rappela et me permit de le regarder aussi, ce que je trouvais fort aimable de sa part. Oh, que nous le trouvâmes beau! Il marchait bras dessous avec M. Cole. Cette alliance, quel que soit ou quoi que soit vos parents, doit leur être agréable pourvu qu'ils aient le sens commun. Et nous ne devons pas baser notre conduite sur la façon de penser des sots. S'ils désirent vous voir heureusement mariés, voilà un homme dont l'aimable caractère en donne l'assurance. S'ils désirent que vous vous établissiez dans le pays et dans le cercle où ils vous avaient placé, leurs vœux se trouvent accomplis. Et si le seul objet qu'ils ont en vue est, suivant le langage ordinaire, que vous fassiez un bon mariage, ici, vous avez une fortune honnête, un bon établissement, un rang dans le monde, tout cela doit les satisfaire. Oh oui, c'est bien vrai! Que vous parlez agréablement! J'aime à vous entendre, vous comprenez tout. Vous et M. Elton, vous avez autant d'esprit l'un que l'autre. Cette charade, quand j'aurais étudié pendant un an, je n'aurais jamais pu faire rien de pareil. De la manière dont il chercha à s'excuser hier, son intention était de s'essayer. C'est sans exception la plus belle charade que j'ai jamais lue. Certainement, je n'en ai point lu de plus signifiante. Elle est du double plus longue qu'aucune de celles que nous avions auparavant. Ce n'est pas, suivant moi, ce qui la rend meilleure. De pareilles choses, au contraire, ne sauraient être trop courtes. Elle était trop occupée pour entendre cette dernière phrase. Une chose est, dit Henriette, peu après, en rougissant, d'avoir beaucoup de sens dans les petites choses, comme tout le monde, et si on a quelque chose à faire savoir, de l'écrire en peu de lignes. Mais c'en est une autre, de faire une charade et des vers comme ceci. Emma ne pouvait désirer un refus plus direct de la prose de M. Martin. « Quel beau vers !» continue Henriette, « ces deux derniers. Mais comment m'y prendrais-je pour rendre le papier ou dire que je l'ai deviné ? Oh, mademoiselle Woodhouse, que devons-nous faire ?» « Laissez-moi faire, ne vous inquiétez pas, il viendra ce soir, j'en suis sûre, je le lui rendrai. Il se fera quelques plaisanteries entre nous, et vous ne serez pas compromise. Vos 12 yeux choisiront leur temps pour lancer leurs traits. Fiez-vous à moi. » « Oh, mademoiselle Woodhouse, quel dommage que je ne puisse pas transcrire cette charmante charade dans mon livre. Je suis sûre qu'il n'y en a pas une qui soit la moitié aussi bonne. » Laissant à part les deux dernières lignes, je ne vois pas de raison qui puisse vous empêcher de la transcrire dans votre livre. Oh, mais ces deux lignes sont les meilleures de toutes, j'en conviens, pour une jouissance particulière. Servez-vous-en pour votre usage. Ils n'en seront pas moins écrits pour être divisés. La strophe sera toujours la même et le sens n'en sera pas changé. Emportez-le. Toute propriété cesse et il restera une charade galante, digne de figurer dans un recueil. Comptez sur ce que je vous dis. Il n'aimerait pas plus qu'on méprisât sa charade que sa passion. Un poète amoureux veut être encouragé comme amant et comme poète, ou point du tout. Donnez-moi le recueil, je vais la transcrire. Ainsi, l'on n'aura rien à vous dire. Henriette se soumit, quoiqu'elle ne comprît pas trop qu'on pût séparer les deux parts, de sorte qu'elle n'était pas bien sûre que son amie n'était pas occupée à écrire dans son livre une déclaration d'amour. Une pareille offre est trop précieuse pour lui donner le moindre degré de publicité. « Ce livre, dit-elle, ne sortira jamais de mes mains. » « Fort bien, répliqua Emma, Ce sentiment est très naturel, et plus il durera, plus je serai satisfaite. Mais voici mon père qui vient. Vous ne trouverez pas mauvais que je lui lise la charade, cela lui fera le plus grand plaisir. Il aime ces sortes de productions, et surtout lorsqu'on y fait des compliments au beau sexe. Il a le véritable esprit de la plus tendre galanterie pour nous toutes. Permettez-moi de la lui lire. » Henriette parut sérieuse. « Ma chère Henriette, cette charade ne doit pas tant vous affecter. Vous découvrirez vos sentiments mal à propos si vous paraissez si concentrée en vous-même ou si vous y attachez plus ou même tout le prix que la chose mérite. Ne perdez pas la tête pour un aussi mince tribut d'admiration. S'il avait tant désiré le secret, il n'aurait pas laissé son papier devant moi. Et puis, c'était plutôt à moi qu'à vous qu'il le présentait. » Il a assez d'encouragement pour continuer sans que nous soupirions sur sa charade. Cela ne doit pas tant vous affecter. Oh non, je tâcherai d'éviter de me rendre ridicule. Faites ce qu'il vous plaira. » Monsieur Woodhouse entra et tomba bientôt sur son sujet favori, demandant, suivant sa coutume, à ses demoiselles où elles en étaient de leur recueil. « Avez-vous quelque chose de nouveau ?» « Oui, papa, nous avons quelque chose de nouveau à vous lire. Nous avons trouvé ce matin un papier sur cette table, qu'une fée y a probablement mis, contenant une très jolie charade, et nous venons de la copier. » Elle lui en fit la lecture, comme il le désirait, doucement et distinctement, et deux ou trois fois de suite, avec des explications où elles étaient nécessaires. Il en fut extrêmement satisfait, et particulièrement de la conclusion. « Oui, c'est très bien dit, très juste et très vrai. Femme, charmante femme. Cette charade est si jolie que je devine aisément le nom de la fée qui l'a apportée. Il n'y a que vous, Emma, qui puissiez si bien écrire. » Emma, en souriant, ne fit qu'un signe de tête. Après avoir pensé un peu et poussé un tendre soupir, il ajouta « Ah, il est aisé de voir de qui vous tenez. Votre chère mère était si habile à ces sortes de choses. Si j'avais seulement sa mémoire. Mais je ne me souviens de rien, pas même de l'énigme dont je vous ai parlé. Je ne me rappelle que la première strophe, et il y en a plusieurs. Catherine est jolie autant qu'elle est cruelle. L'amour m'a consumée, j'en suis encore honteux. J'invoquais Cupidon, me fiant à son zèle, malgré que je craignais son humeur infidèle, car il m'avait rendu déjà trop malheureux. Voilà tout ce que je n'ai pas oublié. Elle est belle d'un bout à l'autre. Mais il me semble, ma chère, que vous m'avez dit que vous l'aviez. » « Oui, papa, elle est écrite sur la seconde page de notre recueil. Nous l'avons copiée des extraits élégants. Elle est de Garrick, vous savez. » « Eh oui, c'est vrai, je voudrais en savoir davantage. Son nom me fait souvenir de la pauvre Isabelle, car il s'en est fallu de peu qu'elle ne reçut au baptême le nom de Catherine, d'après sa grand-mère. J'espère que nous l'aurons ici la semaine prochaine. Avez-vous songé, ma chère, où nous la placerons et quelle chambre on donnera aux enfants ? Oh oui, elle aura sa chambre, celle qu'elle occupe toujours, et les enfants, celle qui leur est destinée. Pourquoi ferions-nous aucun changement ? « Je n'en sais rien, ma fille, mais il y a si longtemps qu'elle n'est venue ici. Depuis Pâques, et encore, elle ne resta que quelques jours. Il est désagréable que M. Jean Knightley soit homme de loi. Pauvre Isabelle, c'est bien malheureux qu'on nous en prive comme on fait. Quel chagrin elle ressentira à son arrivée de ne pas trouver Mlle Taylor ici. Au moins, papa, elle n'en sera pas surprise. Je n'en sais rien, ma chère. Je sais seulement que je fus extrêmement surpris lorsque je sus qu'elle allait se marier. Nous inviterons M. et Mme Weston à dîner ici tant qu'Isabelle restera avec nous. » « Oui, ma chère, si nous en avons le temps. Mais, » d'un ton mélancolique il ajouta, « elle ne vient que pour une semaine, nous n'aurons le temps de rien faire. » Il est malheureux qu'il ne puisse rester plus longtemps. Mais il paraît qu'ils sont forcés, ou du moins M. Jean Knightley, de se trouver à Londres le 28, et nous devons être reconnaissants, papa, de ce qu'ils nous donnent tout leur temps, qu'ils ne passeront pas deux ou trois jours à l'abbaye. Monsieur Knightley promet de céder ses prétentions pour ses fêtes de Noël, et vous savez fort bien qu'il y a plus longtemps qu'il ne les a eues que nous. Il serait bien dur que la pauvre Isabelle fût ailleurs qu'à Hartfield. » Monsieur Woodhouse voulait à peine reconnaître les droits qu'avait Monsieur Knightley sur son frère, et ceux de qui que ce soit sur Isabelle. Il réfléchit un instant et dit « Mais je ne vois pas pourquoi la pauvre Isabelle serait obligée de s'en retourner si tôt à Londres. Il me semble, Emma, que je ferais bien d'essayer de lui persuader de rester plus longtemps avec nous. Elle et ses enfants pourraient bien rester ici. » « Ah, papa, c'est à quoi vous n'avez jamais pu réussir et vous n'y réussirez jamais. Isabelle ne peut supporter l'idée de quitter son mari. » Cette vérité était trop palpable pour la contredire, quelque mortifiante qu'elle fût. Aussi M. Woodhouse se contenta de soupirer douloureusement. Et comme Emma vit que ses esprits étaient abattus par l'idée de l'attachement qu'avait Isabelle pour son mari, elle tourna la conversation sur la partie du même sujet qui pouvait les relever. Henriette passera avec nous le plus de temps qu'elle pourra, tandis que mon frère et ma sœur seront ici. Je suis sûre que les enfants lui plairont. Nous sommes fiers de ses enfants, n'est-ce pas, papa? Je désire bien savoir lequel elle trouvera le plus joli, d'Henri ou de Jean. Et moi aussi, les pauvres petits, qu'ils seront contents de venir ici. Ils aiment beaucoup Hartfield, s'adressant à Henriette. J'en suis bien persuadée, et je ne connais personne qui ne pense comme eux. Henri est un joli garçon, mais Jean ressemble beaucoup à sa mère. Henri est l'aîné, on lui a donné mon nom, de préférence à celui de son père, qu'on a donné au second. Quelques personnes ont été surprises qu'on ne l'ait pas donné à l'aîné. Mais Isabelle a voulu qu'il s'appelât Henri. Je lui en ai su bon gré. C'est en vérité un gentil garçon. Ils sont tous très gentils, ils ont tous des manières si engageantes. Ils viennent près de mon fauteuil, l'un me demande un bout de ficelle. Henri me dit une fois « Grand-papa, donnez-moi un couteau. » Je lui répondis que les couteaux étaient faits pour les grands-papas. Je pense que leur père est souvent trop dur avec eux. « Il vous paraît dur, dit Emma, parce que vous êtes si doux. » Mais si vous le compariez à d'autres pères, vous ne le croiriez pas si dur. Ils désirent que les garçons soient actifs et hardis, et lorsqu'ils se conduisent mal, ils leur parlent un peu durement de temps en temps, mais c'est un père très affectionné. Certainement, M. Jean Knightley est un père tendre, tous ses enfants l'aiment beaucoup. Puis vient leur oncle, qui les fait sauter jusqu'au plancher de la manière la plus terrible. Cela leur fait plaisir, papa. Il n'y a rien qu'ils aiment tant. Cet exercice leur plaît tellement que si leur oncle n'avait pas posé comme règle qu'ils viendraient chacun à leur tour, celui qui commence ne voudrait jamais céder sa place. Bien, je n'y comprends rien. C'est ce qui nous arrive à tous, papa. La moitié du monde ne peut comprendre le plaisir que prend l'autre. Un peu plus tard dans la matinée, juste au moment où les demoiselles allaient s'habiller pour le dîner, le héros de l'inimitable charade se présenta une seconde fois. Henriette se tourna de côté, mais Emma le reçut avec son sourire accoutumé et son œil pénétrant crut reconnaître en lui l'homme qui, ayant fait un pas en avant et jeté le dé, venait s'informer s'il avait réussi. Il donna cependant, pour raison ostensible, qu'il était venu pour savoir si M. Woodhouse pouvait faire sa partie sans lui, ou si l'on avait le moindre besoin de lui à Hartfield. S'il en était ainsi, il abandonnerait tout. Autrement, son ami Cole l'ayant tant pressé de dîner avec lui, il n'avait pu s'empêcher de lui promettre d'y aller. Cependant, il n'avait promis que conditionnellement. Emma le remercia, mais ne voulut pas permettre qu'il manquât de parole à son ami, la partie de son père étant assurée. Il s'offrit encore et fut refusé. Il allait se retirer, lorsqu'Emma, prenant le papier qui était sur la table, le lui rendit. « Oh, voilà la charade que vous avez eu la bonté de nous laisser. Je vous remercie de nous avoir permis de la lire. Nous l'avons trouvée si belle que j'ai pris la liberté de la transcrire dans le recueil de Mademoiselle Smith. J'ose espérer que votre amie n'en sera pas fâchée. Au reste, je n'ai écrit que les 8 premières lignes. » M. Elton ne savait trop que dire. Il paraissait incertain et confus, dit un mot sur l'honneur, jeta un coup d'œil sur Emma et Henriette, et, voyant le recueil ouvert sur la table, il le prit, l'examina avec beaucoup d'attention. Pour le tirer d'embarras, Emma lui dit en souriant « Présentez mes excuses à votre ami, mais une si bonne charade ne peut pas n'avoir qu'un ou deux admirateurs. Il peut compter, tant qu'il écrira avec autant de galanterie, qu'il sera toujours approuvé par les dames. » « Je n'hésite pas de dire, répliqua M. Elton, quoiqu'il hésita beaucoup en parlant, je n'hésite pas en disant « Au moins, si mon ami sent comme je fais, je ne doute pas que, s'il voyait le cas qu'on fait de cette production, jetant les yeux sur le recueil en le remettant sur la table, il le regarderait comme le moment le plus fortuné de sa vie. » Après ce discours, il s'éclipsa. Emma lui en eut l'obligation. Car, malgré ses bonnes et agréables qualités, il y avait dans sa manière de parler une sorte d'ostentation qui lui donnait une envie démesurée de rire. Elle s'enfuit pour s'en donner à cœur joie, laissant à Henriette sa part de ce qui se trouvait de tendre, de sublime et d'agréable dans ce qu'elle venait d'entendre.